c'est légitime de nous poser la question de la perfection. Puisque Jésus nous y appelle, puisqu'il le déclare. Mais entendez bien qu'il ne dit pas « Améliorez-vous, tendez à la perfection. » Ce n'est pas ce que j'ai lu. « Soyez parfaits. » Et ce qu'il ajoute juste derrière n'a rien de très rassurant. « Comme votre Père céleste est parfait. » Voilà le programme, les amis, Nadia et Sébastien. La perfection divine, rien d'autre, rien de moins. Il faut avouer qu'en matière de perfection, nous confessons plus volontiers un autre credo, qui n'a rien de biblique, mais qu'on entend partout depuis qu'on est petit, y compris dans l'Église. Je suis prêt à parier que nous l'avons tous confessé un jour, à l'occasion d'une défaillance, en guise de piteuses excuses. La perfection n'est pas de ce monde. Hein ? Ben voilà, j'ai l'impression que vous êtes activement participants. Il y a des proverbes, des ritournelles comme ça, que personne jamais ne conteste. Des paroles dont l'autorité est absolue dans nos vies. La perfection n'est pas de ce monde. Eh bien, si elle l'est, et on va chercher ce matin à découvrir où et comment. Alors, une première observation va nous aider à comprendre quand même un peu les choses. Le mot « parfait » n'a pas la même signification dans la bouche de Jésus que dans la langue française ou dans notre culture française. Par exemple, qu'est-ce qu'une femme parfaite, Nadia ? Tu ouvres des grands yeux. Oui, bon, chacun a sa définition. Hein. La tendance actuelle, vous voulez savoir ? C'est une personne de moins de 25 ans, belle, sportive, intelligente, spirituelle, organisée et qui fait de l'humanitaire. Pas mal. Ça, c'est du copier-coller de je ne sais quel site spécialisé sur le bonheur. Hein. Un homme parfait, Sébastien ? Tu peux tenter quelque chose ? Bah, attends, je vais t'aider. 32 ans, donc c'est mort. Beau comme un dieu grec, bon, ça. Plein d'humour, toujours bien. Qui gagne très bien sa vie en disant, écoute bien ça, en disant que l'argent n'a aucune importance. Etc., etc. C'est un peu comme sur ma diapo d'ouverture. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est à même de vous rassurer ou de vous inquiéter. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout cette conception de la perfection que Jésus a en tête. Le mot qui est utilisé dans le texte grec de l'Évangile n'a rien à voir avec les critères de perfection que je viens d'égrener de manière tout à fait stupide. Parfait, parfait signifie littéralement, dans le grec, hein, ce qui est arrivé à son accomplissement. Ce qui est achevé, réalisé, abouti, voilà des synonymes. La perfection, c'est donc d'avoir atteint le but que Dieu avait fixé pour nous. Et la mesure de cette perfection, nous l'avons vu, elle est précisée, être parfait comme Dieu est parfait. Au sens où il n'existe pas en Dieu d'écart entre ce qu'il veut et ce qu'il fait. Il y a une pleine cohérence entre la volonté, la parole et les actes chez lui. Il fait ce qu'il dit, tout simplement. Cet écart, cette distance entre ce que nous devrions être, des gens parfaits, et ce que nous sommes réellement, Eh bien, ça active en nous différents mécanismes. J'en vois plusieurs. Il y a d'abord le mécanisme de l'optimisme indulgent devant l'écart entre notre perfection présumée et notre réalité. Hein. L'optimisme indulgent. Je sais, je ne suis pas parfait, mais j'y travaille. Et je pense qu'à force d'y travailler, ça va finir par payer. Volonté. Il y a aussi le mécanisme, alors très répandu celui-là, et très dévastateur, le mécanisme de la culpabilité. Je ne suis bon à rien. Je sais très bien ce qu'il faut être et faire, mais je ne suis pas assez croyant, pas assez consacré, engagé pour y arriver. Et comme ça, on se charge jusqu'à l'écrasement. Il y a encore un autre mécanisme. C'est celui du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Vous connaissez celui-là aussi ? On va expliquer l'écart entre ce que je suis et ce que je devrais être en accusant tour à tour, alors là, la liste est infinie, hein, les circonstances, la société, les parents, alors là, un maximum, l'éducation, oui, le système, le diable, ou Dieu même, pour expliquer notre mal-vivre, ou expliquer le piètre témoignage chrétien que nous sommes capables de rendre. Et vous-même, Sébastien et Nadia, au moment d'affirmer votre appartenance au Christ, comment gérez-vous cet inconfort ? Cet inconfortable commandement du Christ, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Pas facile, hein ? Ou alors, le baptême est réservé à celles et ceux qui ont résolu définitivement le problème du mal dans leur vie. Et là, tout le monde sort, vous savez, comme dans la scène où Jésus fait silence avec une dame, que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Vous savez, quand on n'arrive pas, parce que là, on n'a pas beaucoup avancé quand même, hein, mais quand on n'arrive pas à trouver de réponse à un problème, l'idée, c'est d'aller voir comment les autres se dépatouillent avec le problème. J'ai trouvé quelqu'un d'intéressant dans sa démarche. C'est l'apôtre Paul, une fois de plus. Il va nous aider. Alors que tous nos indicateurs de vie sont formels et nous envoient le même message. Perfection, impossible, perfection, impossible. L'apôtre Paul écrit à ses amis philippiens, vous l'avez lu tout à l'heure, « Nous qui sommes parfaits, etc. » C'est-à-dire nous, les apôtres, et vous, les membres de l'église de Philippe, nous ensemble qui sommes parfaits. Waouh ! Il semble donc que la perfection pour Paul soit bien de ce monde, ou plus précisément du monde nouveau auquel Paul et ses amis philippiens appartiennent. Et comment y parvenir à cette perfection ? Et puis surtout, de quelle perfection s'agit-il ? Et là, Paul va dans son récit, dans ce témoignage autobiographique, il va barrer les fausses routes, les fausses pistes. Surtout celles qui consistent à vouloir fabriquer soi-même sa perfection. Avant de faire la rencontre avec le Christ, sur la route de Damas, allez voir le livre des Actes au chapitre 9, vous verrez, c'est magnifique. Paul suivait un autre maître. Ce maître s'appelait pour lui la loi de Moïse, ou plus précisément son désir personnel de s'élever à la perfection légale. Il considérait, Paul, que son salut dépendait de sa capacité à devenir juste. Et cette perfection morale, légale, rituelle, était devenue pour lui une véritable obsession, au point même qu'il pensait l'avoir atteint. J'étais devenu irréprochable. Et je vois bien que c'est précisément là, sur ce sommet de gloire personnelle, sur cette montagne de perfection morale, cette montagne d'orgueil spirituel, que Dieu l'attendait pour lui présenter quelqu'un. Et dans ce miroir, mouroir, où Paul contemple sa justice personnelle, ce quelqu'un-là lui apparaît et lui dit « Paul, Paul, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les gens comme toi, qui sont pleins de leur volonté, pleins de leur certitude, qui pensent qu'à force de travail, de renoncement, d'engagement, d'effort, ils vont devenir justes, purs, saints, parfaits. Qu'ils vont mettre Dieu dans leur poche. Ça, c'est pas le salut, Paul. Ça, c'est l'enfer. Parce que tu n'en auras jamais fini avec cette justification de toi-même, avec ce nettoyage compulsif et obsessionnel de ton âme. Pour le Christ, l'impeccabilité n'est pas du tout synonyme de perfection. C'est au contraire, dans la reconnaissance accablante et honnête de notre déroute personnelle, de la perdition de soi, que se trouve le salut du Christ. Cette rencontre de Paul avec le Christ, elle a eu pour Paul des conséquences fantastiques. Tout ce que Paul avançait pour justifier sa justice personnelle, d'abord cette preuve physique d'appartenance au peuple élu, la circoncision, ce certificat de bonne naissance, hébreu, fils d'hébreu, cette liste de 613 commandements pratiqués à la lettre, bref, tout ce qui avait l'apparence de la sainteté, de la perfection, s'est transformé en un flash dans la rencontre avec le Christ, non pas en chose seconde, un peu moins importante, mais auquel on tient quand même, mais en perte sèche. Paul découvre dans la présence du Christ qu'il est en réalité insolvable et insauvable. Pire que tout ce sur quoi il avait construit pour plaire à Dieu n'est ni plus ni moins que de la pourriture. Paul a réalisé une chose essentielle. Et cette chose-là est commune à toutes celles et ceux qui, ici-bas, font l'expérience de la rencontre avec le Christ. Il n'y a rien, rien du tout, en nous qui puisse nous rapprocher de Dieu. Ce renoncement à soi-même, cet abandon inconditionnel à Christ, sauveur des pécheurs, frère de cette humanité en souffrance et en perdition. Ce mouvement d'abandon de soi se résume en un mot, un seul pour Paul, c'est l'expérience de la foi. La voilà la véritable sainteté, la véritable perfection devant Dieu. Celle qui consiste à se reconnaître incapable de trouver par soi-même une direction, un sens à notre vie. Être saint, ce n'est pas savoir ou faire. Être saint, c'est croire. Attention! N'allons pas faire maintenant de la foi un nouveau système, un nouveau passeport, une nouvelle circoncision pour le paradis. On devrait peut-être renoncer à dire qu'on a la foi, comme on a une propriété sur laquelle on a bien la main. Ce verbe avoir est terrible, parce que la foi, finalement, ce n'est pas quelque chose. La foi, c'est bien quelqu'un. Celui que Dieu me fait rencontrer sur mon chemin de Damas, au cœur de mes chaos personnels, Jésus le Christ. La foi est un peu comme une savonnette. Elle nous file entre les mains dès que nous pensons avoir la main dessus. Oui, le meilleur moyen de perdre la foi, c'est d'essayer de la tenir, de la maîtriser, finalement d'en faire un nouveau dogme, une nouvelle loi à pratiquer. La foi, c'est tout le contraire. Elle est une vie, un mouvement avec Christ. Et ceux qui s'engagent dans cette aventure-là sont simplement parfaits. Parfaits au sens où ils ont été découverts par la grâce de Dieu et où ils se sont découverts aimés. Nadia et Sébastien, vous êtes parfaits. Votre vie en Christ a été découverte, reconnue, accueillie et remplie d'amour. Votre réponse, que nous allons entendre dans quelques instants, votre réponse par la foi à cet amour de Dieu dit l'achèvement, la perfection de votre existence. Vous avez été trouvé par Christ, l'essentiel a été accompli au plus profond de votre existence. Il n'y a plus qu'à faire cette course, la course de la vie, comme dit Paul. Votre vie est à vivre dans cette plénitude-là, acquise une fois pour toutes. Cet achèvement dont vous êtes les témoins aujourd'hui. Alors oui, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Le Christ est déjà en route avec vous sur cette course de la vie. Il vous donnera la force et la joie de le vivre. Amen.